Après l'opération, on a de nouveau rencontré l'infirmière. Elle nous a parlé de films porno, de pompes à pénis, de tous les moyens externes pour nous aider à avoir des rapports plus ou moins normaux, quoi. La sensualité, des rapports sans pénétration, en fait. Ouais, c'est toute une autre façon d'aborder la sexualité, quoi.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisset et Cécile, et Le Quotidien 24h. On est en novembre et depuis 2003, c'est un mois qui rime avec Movember, une action qui invite les hommes du monde entier à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche des maladies masculines comme le cancer de la prostate. Ce dernier est le plus fréquent de tous les cancers, avec en moyenne 6600 nouveaux cas chaque année en Suisse. Prise en charge suffisamment tôt, le pronostic de guérison est relativement bon, d'où l'importance du dépistage. Mais les traitements ne sont pas sans conséquences et modifient souvent radicalement la sexualité des hommes. C'est lors d'un contrôle de routine chez son généraliste qu'Étienne, 56 ans, apprend que sa vie va prendre un nouveau tournant.
J'allais régulièrement, une fois par année, chez mon médecin de famille, qui me faisait une prise de sang depuis quelques années. Et puis, mon PSA a augmenté petit à petit. Cette année, il m'a envoyé chez un urologue pour faire un contrôle. Et puis, ça s'est tout enchaîné, quoi. J'ai passé un IRM. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose, donc il m'a fait une biopsie quelques jours après. Quand j'ai appris que j'avais le cancer... Il y a plein de choses qui se passent dans la tête, surtout quand on n'a jamais rien eu jusqu'à maintenant, on rentre dans un autre monde, quoi. Et puis c'est vrai que pendant 2-3 semaines, un mois, c'était un peu compliqué. On en parlait un peu avec ma femme. Il y avait des paroles, du silence, beaucoup de silence, parce qu'on est rentré dans un... Oui, une forme de mutisme pendant quelques temps. Et il me vient en tête la mort, mais c'est pas ça qui est venu en premier. Pourquoi ? Moi, c'était la question. C'était pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive maintenant ? Parce que maintenant, on a des petits-enfants, on peut en profiter. On est là, on n'a plus besoin de les élever, on est là, on peut vraiment faire des tas de choses avec. Et puis, je voyais le pire, quoi.
Une fois le diagnostic posé, plusieurs choix thérapeutiques s'offrent au patient en fonction de son cancer. Leïla Belkiter-Momfé, référente prostate et clinicienne en oncologie aux cliniques Boisset et Cécile.
Les différentes attitudes thérapeutiques qu'on peut proposer, il peut y avoir une surveillance active, ça veut dire qu'on va surveiller le patient sur quelques années. Il peut y avoir aussi une indication d'une prostatectomie radicale, ça veut dire qu'on va opérer le patient, on va lui enlever sa prostate. On peut proposer de la radiothérapie seule ou combinée avec de l'hormonothérapie. Et puis quand la maladie est vraiment avancée, là, on peut passer au traitement systémique qui est la chimiothérapie. au-delà du diagnostic de cancer déjà, qui déclenche quand même pas mal de perspectives sur la finitude, sur les valeurs de la vie, sur pourquoi ça m'arrive à moi, on a les effets secondaires qui sont liés au traitement choisi. Par exemple, si on choisit la prostatectomie radicale, il y a quand même cet effet secondaire de fuite urinaire. Et puis, on a un impact aussi sur la sexualité des patients. Quand on opère un patient d'une prostatectomie radicale, selon cas, on a deux nerfs érectiles. Souvent, on ne peut pas faire d'épargne. Ça veut dire qu'on ne peut pas garder un des deux nerfs. Parfois, ça nous arrive de ne pas pouvoir garder les deux nerfs. Si on enlève les deux nerfs, donc il n'y a plus de possibilité d'érection. Donc, il faut soutenir avec un traitement. Si on a un des deux nerfs érectiles, on peut avoir une érection qui ne permettra pas d'avoir un rapport sexuel comme le patient a l'habitude d'avoir avant. Donc, il y a tout un aspect de prise en charge par rapport à la santé sexuelle de chaque patient au cas par cas, selon l'intervention qu'il y a eu et le geste opératoire qui est très spécifique à chaque patient.
C'était soit les rayons, soit l'ablation totale. Et les rayons, l'urologue m'a dit que s'il faisait des rayons, ça pouvait le faire, ça pouvait être bien, mais le problème, c'était que ça allait brûler autour aussi. Donc le jour où, si un jour il venait à avoir autre chose, eh ben il pourrait plus opérer correctement, plus la même chose. Donc les problèmes auraient été autres. Que l'ablation. Donc, moi, je me suis renseigné chez mon médecin généraliste, qui était un petit peu emprunté parce qu'il a le même âge que moi. Il m'a dit que s'il était à ma place, il le ferait. Il ferait l'ablation. Donc, et puis, j'ai une connaissance qui est en train de faire de l'oncologie au Portugal. Et il m'a demandé s'il pouvait voir le dossier pour en discuter avec sa chef. Et puis, ils m'ont conseillé d'enlever aussi. J'ai appris à connaître à quoi servait la prostate, en fait. Parce que quand on vit comme ça, on ne s'imagine pas tout ce qu'elle fait. Et puis, le médecin m'a parlé d'incontinence après l'opération, d'érection, d'éjaculation. Ça, en fait, c'est les principales choses qui peuvent ne plus fonctionner correctement, quoi. En fait, le jour où je suis allé chez le médecin pour prendre la décision, j'étais avec ma femme et il nous a expliqué qu'est-ce qui allait se passer, quoi. Et c'est vrai que elle, sur le coup, elle a toujours dit « je préfère qu'il soit opéré puis que ça fonctionne plus correctement que je sois plus là, quoi. » Voilà, voilà, c'est comme ça. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble et on en a bien profité jusqu'à maintenant. Et puis voilà, quoi, maintenant c'est une autre vie. Sexuelle qui commence.
Quand moi je vois les patients en consultation pré-thérapeutique, ça veut dire avant qu'ils se fassent opérer, on va plus parler du diagnostic lui-même, hein, sur l'effet que ça a fait sur les patients, sur tout ce questionnement, de se dire pourquoi moi, est-ce que je vais guérir de ma maladie ou pas. À la première consultation, le patient il est fixé sur l'intervention, sur les suites opératoires et sur la reprise d'autonomie. On parle d'une population jeune quand même, entre 50 et 70. On a beaucoup de patients qui sont encore en activité professionnelle, donc il y a toute cette inquiétude autour de la reprise professionnelle. Donc c'est vrai que quand je questionne les patients sur leur activité sexuelle, la première réponse c'est « pour le moment, ce n'est pas ma priorité ». Mais moi, c'est mon rôle justement d'embrayer sur ce point-là qui souvent revient trois mois après, sur le tapis. Ce que j'essaye d'expliquer aux patients, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un diagnostic de cancer, mais une fois que le patient a été opéré, une fonction urinaire qui a été reprise, une activité professionnelle qui a été reprise, bah, le patient reprend sa vie d'avant le diagnostic. Donc il y a quand même un effet secondaire qui est très important, qui est le dysfonctionnement érectile, qu'on doit prendre en charge à un moment donné. Plus on prend cet effet secondaire rapidement en post-opératoire, en expliquant aux patients les éventualités des traitements, ce qu'on peut faire, et puis comment appréhender cette nouvelle sexualité, eh ben mieux c'est, mieux le résultat est beaucoup mieux après.
Alors on a parlé avec une infirmière en oncologie. La première rencontre qu'on a eue avec elle, c'était 2 ou 3 jours avant l'opération. Et elle les cache. Elle dit les choses, tac en bas. Et je crois que c'était quand même génial de parler avec elle, parce qu'il y a un lien qui s'est créé. Ma femme était là aussi, et puis elle a parlé de sexualité directe. Qu'il fallait profiter, que c'était les derniers jours, que ça allait fonctionner comme il faut. Et puis que, voilà. Et on est resté 1 heure à blaguer avec elle. Et c'est vrai que elle nous a mis à l'aise direct. Et moi, je pense que ce serait bien qu'on puisse rencontrer peut-être 1 ou 2 fois ou 3 fois une personne comme ça, qu'on puisse en parler avant l'opération.
Cette consultation est parfois vécue comme un moment délicat pour les patients, la sexualité restant encore un sujet tabou pour de nombreux hommes.
Quand je pose ma première question, alors je mets toujours une petite introduction en disant on passe à un autre sujet, je vais vous poser une question indiscrète. Comment vous évaluez votre sexualité aujourd'hui? Alors souvent, tout le monde me dit « très bien ». Alors, quand je questionne plus loin en disant « ça veut dire quoi très bien, est-ce que vous avez des pannes ?» C'est varié. Alors, il y a des gens qui vont être très honnêtes, qui vont dire la vérité de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Souvent, c'est des hommes qui ont une sensibilité très développée. Donc, il y a des hommes qui vont pleurer parce qu'ils parlent d'un vécu qui leur fait mal. Et il y a d'autres personnes qui vont extrapoler, ils vont me dire des choses où souvent c'est la conjointe qui est là qui dit « non, mais c'est pas comme ça que ça se passe ». Donc il y a une espèce de retour à la réalité qui est fait avec le partenaire qui est là, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les partenaires en consultation. Et puis souvent, quand je pose la question au patient qui va me dire « non, j'en ai plus, est-ce que ça vous manque ?» Il n'y a pas un patient qui m'a dit « non, ça ne me manque pas ».
L'intervention d'Étienne a lieu au mois de juin dernier, une opération qui se déroule très bien. Étienne regagne son domicile après 4 jours d'hospitalisation.
J'ai pas souvenir d'avoir eu mal. J'avais une sonde urinaire avec une poche que j'ai gardée pendant 1 semaine. Parce que ça s'est super bien passé en fait. 1 semaine après l'opération, je suis sorti de la clinique le jeudi. Je suis redescendu le lundi pour voir si tout était en ordre. Ils injectaient un produit dans la vessie pour faire une radiographie, pour voir s'il y avait des fuites. Et puis ils ont enlevé la sonde directe. Donc je me suis retrouvé 7 jours après l'opération sans sonde, mais des protections, comme pour une femme. Parce que c'est difficile de retenir l'urine, parce que on doit travailler notre périnée. J'ai eu des séances de physiothérapie. J'étais déjà allé 3 fois chez elle avant l'opération et j'ai encore fait 6 séances après chez elle, ce qui m'a permis de connaître le périnée chez l'homme. Voilà. Et j'ai eu de la chance aussi, c'est qu'en quelques semaines, j'ai réussi à retenir l'urine.
Et le retour à la libido, même en solo, peut prendre du temps.
Les premiers mois, il n'y a pas forcément d'envie, parce qu'on a les effets secondaires qui sont là, on a les douleurs résiduelles à la chirurgie qui est là. La plupart des patients sortent avec leur sonde urinaire, donc qui gardent quand même 15 jours. Donc on n'est pas très ouvert ou prêt à ce genre de manifestations. J'en ai eu quelques-uns qui ont essayé quand même. Mais c'est vrai qu'en général, après une chirurgie, on ne va pas ressentir tout de suite toutes ces sensations de vouloir se masturber, en tout cas en post-opératoire immédiat. Souvent, ça vient une fois que toutes les difficultés ou tous les problèmes liés à la chirurgie ont disparu.
Un retour à la sexualité qui ressemble parfois à un retour à l'école, car il faut souvent apprendre à aborder les rapports intimes sous un autre prisme.
Après l'opération, on a de nouveau rencontré l'infirmière. Elle nous a parlé de films porno, de pompes à pénis, de tous les moyens externes pour nous aider à avoir des rapports plus ou moins normaux, quoi. La sensualité, des rapports sans pénétration, en fait. Ouais, c'est toute une autre façon d'aborder la sexualité, quoi.
Souvent, on propose une pompe à pénis, c'est ce qu'on appelle les vacuums. Maintenant, il y a des études qui disent que si on peut l'utiliser avant l'intervention et après l'ablation de la sonde urinaire, ben en fait, ça permet de vasculariser le pénis. Et plus on vascularise en post-opératoire immédiat après l'ablation de la sonde, ben on augmente les chances d'une récupération. Il y a aussi le traitement médicamenteux qu'on peut prescrire pareil. En général, les patients, ils ont une ordonnance à la sortie de la clinique, qui peuvent commencer une fois qu'on a enlevé la sonde urinaire. Et en fait, voilà, tout ces combinés aident à une reprise de l'activité sexuelle. J'essaye de rendre les patients très sensibles, hein, les couples aussi. On peut avoir une sexualité jusqu'à notre fin de vie. Elle peut être différente, mais elle peut être là où les deux partenaires peuvent trouver leur équilibre.
Depuis l'opération... Je recommence à avoir un peu d'érection parce qu'ils ont réussi à me sauver ce petit nerf qui provoque l'érection. Et puis le fait de ne plus éjaculer, je ne crois pas que ce soit... Le plaisir est toujours le même. Enfin, oui, le même, à part qu'il n'y a plus rien qui sort, c'est tout. Voilà.
Outre de possibles troubles érectiles, après une ablation totale de la prostate, l'éjaculation ne se produit plus, car la vésicule séminale, responsable de la production du liquide du même nom, est aussi retirée. Pour Leïla, il est aussi important d'envisager une sexualité qui va au-delà de la pénétration sur laquelle beaucoup d'hommes restent encore focalisés. Une pratique qui ne devrait représenter qu'une variante parmi toutes celles qui procurent de l'excitation, du plaisir ou mènent à l'orgasme.
Pour la plupart des hommes que je vois en consultation, la pénétration fait partie de l'acte sexuel. La première chose qui change avec une prostatectomie radicale, en tout cas, c'est qu'il n'y ait plus d'éjaculation. Donc ça perturbe beaucoup les hommes, parce que c'est comme si c'était le fil conducteur ou c'était l'acte ou la finitude de l'acte sexuel. Donc quand il n'y a plus d'éjaculation, les patients me posent toujours la question de savoir comment je sais que j'ai fini. Et là, ça montre la méconnaissance de soi, de ses sensations, d'être attentif à soi et puis de sentir les choses. Quand l'épouse, elle est là en consultation, elle est toujours là pour réconforter, pour dire « mais t'inquiète pas, je suis là ». Mais les hommes vivent la chose complètement différemment, avec beaucoup de difficultés, parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer une sexualité autre que ce qu'ils avaient. Donc, imaginer une sexualité avec le toucher, avec explorer autre chose, être ouvert à autre chose, c'est un peu abstrait pour eux. C'est pour ça que moi, j'aime bien, quand c'est des situations comme ça, ben, j'aime bien envoyer chez un sexologue où là, il y a une prise en charge qui est vraiment ficelée, qui va faire découvrir autre chose au patient. Mais c'est vrai que la pénétration reste quand même quelque chose d'important. Je ne sais pas si c'est de la domination ou c'est être sûr de donner le plaisir à l'autre et c'est que comme ça, pas autrement. Mais en tout cas, la pénétration a une place importante dans le processus. En fait, c'est la mécanique qui ne fonctionne pas. En fait, les hommes à qui on va enlever les deux nerfs érectiles, ça veut dire qu'à qui on ne va pas faire d'épargne, il y a des injections qui existent, mais il faudra se les injecter dans le corps caverneux pour avoir une érection. Donc l'érection est là. C'est toute la symbolique de comment se passe l'acte sexuel qui est compliquée. C'est pour ça qu'un accompagnement est très important. Souvent, je donne cet exemple aux patients. Moi, je leur dis, moi, je suis une femme, vous ne pouvez pas rentrer et puis me dire, j'ai une érection, on y va. Il y a tout des préliminaires qui doivent se passer avant, qui nous mènent, nous, les femmes, à un acte sexuel. Donc, en fait, on est comme si on était dans un cercle inversé. Nous, on aime bien la première partie, et puis limite la deuxième partie, si elle ne vient pas, ben, on a déjà un plaisir qui est là, que les hommes, ils font toute la première partie dans le but d'arriver à la pénétration. Donc oui, c'est souvent sur ça que je les rends sensibles, en donnant des cas concrets. C'est vrai que l'injection c'est beaucoup plus compliqué aux patients parce qu'on induit l'érection, donc il n'y a pas de préliminaire. On a un temps court entre le moment où on fait l'injection, où on a son érection. Il faut que le partenaire soit prêt. Donc il y a tout un jeu sexuel et une implication aussi du partenaire qui rentre en ligne de compte. Et plus on en parle, enfin de mon expérience, plus j'en parle aux patients, plus ils sont sensibilisés, puis il y a cette facilité de revenir vers moi s'il y a un problème ou s'ils ne savent pas comment faire.
Pour Étienne et son épouse, 4 mois après l'intervention, le retour à la sensualité s'opère lentement.
Elle a eu une opération aussi, elle s'est fait enlever tout l'appareil, donc elle a moins de libido. Et moi, je me rends compte que j'en ai moins aussi maintenant. Il y a moins de demandes, il y a moins d'envie, donc... Bon, pour l'instant, on fait avec, quoi. Et là, ça fait que depuis l'opération, ben, on n'a pratiquement rien fait. Donc, voilà. Moi, des fois, je me rends compte que... Parce que je prends des médicaments, justement, pour favoriser l'érection, puis pour aider aussi pour aller uriner. Parce que, tout petit comme ça, c'est un peu compliqué. Donc... j'ai vu une évolution depuis 4 mois maintenant, donc ça commence à revenir plus ou moins à la normale. C'est vrai qu'on dit qu'à 56 ans, on est encore jeune, mais on a moins l'envie aussi qu'avant. C'est vrai que c'est pas un deuil. Moi, je dirais que je suis soulagé parce que j'ai plus rien. Je sais que les résultats des examens ont fait que j'ai absolument plus rien du tout. On va quand même me contrôler chaque 3 mois pendant une année, et puis ainsi de suite. Après, c'est une fois ou 2 fois par année. C'est un soulagement de plus rien avoir.
Parfois, retrouver le chemin de la sexualité avec un partenaire n'est pas aisé. Et il est important de déjà réapprivoiser son plaisir seul, par exemple en se masturbant.
Parfois, il y a des patients qui me disent « Mais comment je fais ?» Comment je fais tout seul? Et là aussi, je vois très bien qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle derrière. Donc souvent, il y a des patients à qui je dis, vous pouvez regarder un film ou prendre une revue. J'ai quelques patients qui m'ont rappelé, ils me disent, vous avez des titres de films? Non. Et vous voyez, donc il y a des choses comme ça. Alors moi, je suis très spontanée, je rigole beaucoup et ça détend aussi. Parce que souvent, quand ils me disent ça, je dis, moi, je n'ai pas de problème. Donc du coup, je ne regarde pas pour le moment. Mais quand j'en aurai, je regarderai. Mais pour le moment, je n'ai pas de titre. Il y a beaucoup de patients qui ont peur de se faire surprendre. Il y a des patients qui me disent, mais si je fais ça et puis que mon épouse, elle rentre, je dis, mais vous ne faites rien de mal. C'est comme si que la sexualité, il fallait absolument qu'elle soit avec le partenaire. Et je sensibilise les patients, je dis, quand vous avez essayé, peut-être la première fois ça ne marchera pas, la deuxième, au bout de la cinquième fois ça va marcher, vous savez ce que c'est que le résultat. Vous savez comment vous devez vous y prendre avec l'autre. Quand vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'autre, vous serez plus à l'aise et plus détendu.
Le fait d'être passé par un cancer, ça fait réfléchir différemment. Et maintenant que je suis passé par l'opération, je me dis que c'était pas si compliqué que ça. Il faut passer par là pour comprendre ce qui se passe après l'ablation totale d'une prostate, quoi. Ouais, c'est... Je pense que c'est pour toutes les personnes différentes. Ça peut être, pour moi, j'estime que ça s'est bien passé. Et pour d'autres, ça peut être plus compliqué, beaucoup plus compliqué.
Moi, je dis toujours aux patients et puis aux hommes que je vois en consultation qu'on peut avoir une activité sexuelle jusqu'à la fin de notre vie. C'est clair qu'elle va être différente de quand on avait 20 ans, 30 ans ou 40 ans, mais on peut avoir une activité sexuelle qui répond à nos attentes et puis qui soit satisfaisante pour le couple. Questionner son médecin sur une difficulté d'érection, sur une panne sexuelle, peut apporter beaucoup au couple et au bien-être de la personne concernée.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouvez des ressources sur la sexualité après un cancer de la prostate dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.